Anthony Trollope. La fille du pasteur d'Oxnecone. Le paysage le plus charmant de toute l'Angleterre, et si l'on me contredit sur ce point, je dirais de toute l'Europe, se trouve dans le Devonshire, aux limites sud et sud-est de Dartmoor, là où les rivières Dart, Avon et Tyne se forment, là où la lande est à demi cultivée et où les champs sauvages des hautes terres ne valent pas mieux que la lande. Quand je formule cette assertion, je vois bien que les personnes à qui je parle doutent fortement, mais c'est parce qu'elles ne connaissent pas vraiment le lieu. Les hommes et les femmes qui m'en parlent ont emprunté la ligne ferroviaire entre Exeter et Plymouth, ont passé une quinzaine à Torquay, peut-être ont-ils fait une excursion depuis Tavistock vers la prison de Dartmoor. Mais qui connaît les splendeurs de Chagford? Qui a jamais arpenté la paroisse de Manhattan? Qui est familier de Lusley Cleeves et Withycombe dans la lande? Qui a exploré Holmchase? Cher lecteur, reconnais que tu auras du mal à me contredire si tu n'as pas fait tout cela. Dans cette contrée, ou aux environs, je ne saurais dire quelle petite rivière la traverse, se trouve la paroisse d'Oxnecone. Et pour ceux qui souhaitent voir toutes les beautés de ce charmant pays, un séjour à Oxnecone est tout à fait indiqué, car le voyageur s'y trouve mieux placé pour toutes les visites qu'il pourrait souhaiter faire qu'en tout autre endroit du pays. Mais il y a toutefois une objection à un tel projet. Il n'y a que deux maisons décentes dans toute la paroisse, et elles sont, en tout cas elles l'étaient quand je découvris l'endroit, petites et pleinement occupées par leurs propriétaires. La plus grande et la plus confortable était le presbytère, où vivaient le pasteur et sa fille. Et la plus petite était la prospère résidence d'une certaine Miss Le Smirger, qui possédait une ferme de 100 acres qui était louée par un fermier nommé Closey. Elle possédait aussi une trentaine d'acres autour de chez elle, qu'elle gérait elle-même. Et elle pensait que sa production de crème valait bien celle de Mr. Closey, et que sa production de cidre était bien supérieure. « Mais vous, vous n'avez pas à payer de loyer, Miss !» lui disait le fermier, quand Miss Le Smirger exprimait la haute opinion qu'elle avait de son art d'une manière un peu trop provocante. « Vous payez pas de rente, sinon vous y arriveriez pas !» Miss Le Smirger était une vieille fille, fière de ses ancêtres, avec 130 acres de terre en limite de Dartmoor, et à 50 ans, une constitution de fer et une opinion bien arrêtée sur tous les sujets qui peuvent exister. Et maintenant, parlons du pasteur et de sa fille. Le nom du pasteur était Woolsworthy, ou Woolatty, comme on le prononce dans ce pays. Le révérend Saul Woolsworthy et sa fille étaient Patience Woolsworthy, ou Miss Patty, comme le petit monde du Devonshire l'appelait. Ce prénom, Patience, n'avait pas été bien choisi pour elle, car elle était une demoiselle d'un tempérament plutôt emporté, avec de fortes convictions et une tendance à les exprimer librement. Elle n'avait que deux amis intimes au monde, et tous deux avaient parfaitement accepté cette liberté d'expression depuis qu'elle était enfant. Miss Le Smirger et son père étaient habitués à ses manières et en étaient finalement fort satisfaits. La première avait un tempérament aussi libre et énergique qu'elle, et comme Mr. Woolsworthy était autorisé par sa fille à être pleinement souverain dans son domaine, car il avait un domaine, il n'avait pas d'objection à ce que sa fille soit souveraine dans tous les autres. C'était une bien jolie fille que Patience Woolsworthy, à l'époque dont je parle. Elle possédait beaucoup des qualités qui inspirent du respect ou de l'admiration, si seulement elle avait vécu à un endroit où on admire la beauté et où la force de caractère peut être remarquée. Mais à Oxney Colne, à la limite de Dartmoor, il y avait peu de monde pour les apprécier, et elle ne semblait pas vraiment prête à partir au loin avec ses talents pour éviter qu'ils ne s'étiolent. C'était une belle fille, grande et élancée, avec des yeux noirs et des cheveux bruns. Ses yeux étaient peut-être trop ronds pour une beauté classique, et ses cheveux trop frisés. Sa bouche était large et expressive, son nez était finement dessiné, même si une femme aurait pu dire qu'il était un peu trop large. Mais son allure générale était merveilleusement attirante, si seulement elle pouvait être vue sans cette attitude dominatrice qui se révélait à l'occasion, bien que souvent cela ne faisait qu'ajouter à son charme. Il faut reconnaître, à la décharge de Patience Woolsworthy, que les circonstances de sa vie l'avaient obligée à être une femme de caractère. Elle avait perdu sa mère lorsqu'elle avait 16 ans et n'avait ni frère ni sœur. Elle n'avait aucun voisin dans les environs qui convienne à son éducation ou à son rang pour la guider dans la vie, à l'exception bien sûr de Miss Le Smirger. Miss Le Smirger aurait fait n'importe quoi pour elle, y compris la supervision complète de sa moralité et même de tout le presbytère, si Patience avait pu se contenter d'un tel arrangement. Mais même si Patience aimait Miss Le Smirger, elle n'aurait pu s'en satisfaire, et avait donc dû faire preuve d'une grande force très tôt, ce qui lui conféra le caractère que j'essaie de décrire. Mais je dois dire, pour être juste envers cette jeune fille, que ce n'était pas seulement sur les autres qu'elle exerçait cette domination. Elle avait également appris à exercer un fort empire sur elle-même. Mais son père ne comptait-il donc pas dans l'organisation de cette famille ? Peut-être suffit-il de dire que, de tous les hommes vivants, son père était le plus grand connaisseur de l'histoire du pays dans lequel il vivait. Comme le héros de Walter Scott, il était le Jonathan Oldbuck du Devonshire et principalement de Dartmoor, mais sans cette force de caractère qui permettait à Oldbuck de garder ses femmes dans une sorte de sujétion. Et lui permettait aussi probablement de ne pas voir ses factures hebdomadaires dépasser les limites du raisonnable. Notre Mr. Oldbuck d'Oxney Colne manquait cruellement de ses qualités. En tant que pasteur doté d'une petite cure, il faisait son devoir avec suffisamment d'énergie pour être à l'abri de tout reproche. Il était bon et charitable avec les pauvres, ponctuel dans ses services religieux, indulgent avec les fermiers des environs, aimable avec ses confrères du clergé, et totalement indifférent à ce que pouvait bien penser ou dire de lui tel évêque ou tel archidiacre. Je ne mentionne pas ce dernier trait de caractère comme une vertu, mais comme un fait. Mais tout cela ne comptait pour rien chez Mr. Woolsworthy d'Oxney Colne. Il était l'historien de Dartmoor. Là était sa vie. C'est ainsi qu'il était connu dans le petit monde du Devonshire. C'est ainsi qu'il voyageait avec son humble sac de voyage, s'éloignant de son presbytère pour une nuit ou deux. C'était ainsi qu'il recevait à l'occasion des amis itinérants dans la seule chambre à coucher qui était libre. Pas des amis qui souhaitaient le voir, lui ou sa fille, mais des hommes qui savaient quelque chose à propos de telles pierres enterrées ou de tels vieux monuments. Dans ces matières, sa fille le laissait aller son propre chemin, l'assistant et l'encourageant. Telle était sa vie et elle la respectait. Mais dans tous les autres domaines, elle avait décidé d'être le point central du presbytère. Mr. Woolsworthy était un homme petit qui portait toujours, sauf les dimanches, des vêtements gris, des vêtements d'un gris si clair qu'on ne les aurait sans doute pas trouvés très cléricaux dans un district moins éloigné. Il avait maintenant atteint un âge respectable, à 70 ans passés, mais il était toujours alerte et actif, et montrait peu de signes de vieillesse. Son crâne était chauve, et les rares petites boucles qui lui restaient étaient presque blanches. Mais sa bouche exprimait une impression générale d'énergie, et ses yeux gris clairs un sens de l'humour qui empêchait ceux qui le connaissaient de le considérer comme un vieil homme. Et en effet, il pouvait marcher d'Oxnecoln à Preston, 15 longs miles à travers la lande du Devonshire, et s'il était capable de cela, on ne pouvait guère le considérer comme trop vieux pour accomplir son travail. Mais le présent récit s'intéressera davantage à sa fille qu'à lui. Une bien jolie fille, comme je l'ai dit, que Patience Woolsworthy, et très remarquable aussi. Elle s'était forgé son propre avis sur le monde, prenant la mesure de ce qu'elle avait et de ce qu'elle n'avait pas d'une façon très peu commune, et, à vrai dire, pas toujours souhaitable pour une jeune demoiselle. Ce qu'elle n'avait pas, cela représentait en réalité beaucoup de choses. Elle n'avait aucune société, elle n'avait pas de fortune, elle n'avait aucune assurance quant à ses futurs moyens de subsistance. Elle n'avait pas grand espoir de se trouver une position par le mariage. Et elle n'avait ni cette excitation ni cette joie de vivre qu'elle avait trouvé dans certains livres qui étaient parvenus jusqu'au presbytère d'Oxnecoln. Il serait facile de continuer à faire la liste de tout ce qu'elle n'avait pas, et elle compléterait elle-même cette liste en sa défaveur avec la plus grande énergie. Ce qu'elle avait, ou qu'en tout cas elle pensait avoir, était plus facile à énumérer. Elle avait la naissance et l'éducation d'une lady, la force d'une jeune femme en bonne santé et une volonté propre. Tel était l'inventaire qu'elle faisait de sa personne, et j'affirme que je dis la vérité quand je prétends qu'elle n'aurait jamais ajouté la beauté, l'esprit ou le talent. J'ai commencé ces descriptions en affirmant qu'Oxnecoln était le meilleur endroit depuis lequel un touriste pourrait visiter cette partie du Devonshire, mais qu'il ne pourrait y trouver aucune possibilité d'hébergement. Un ami historien aurait peut-être toutefois pu en trouver un en ce temps-là, puisque, je l'ai dit, il y avait une chambre libre au presbytère. Un ami intime de Miss Le Smirger aurait pu également avoir cette chance, car elle était également bien installée à Oxnecombe, comme on appelait sa demeure. Mais Miss Le Smirger n'était pas très portée sur l'hospitalité, et elle ne consentait à ouvrir ses portes qu'à ceux qui lui étaient étroitement liés par le sang ou par une très vieille amitié. Comme ses vieux amis étaient vraiment très peu nombreux et qu'ils vivaient très loin de là, et comme ses connaissances les plus proches étaient plus élevées dans le monde qu'elle ne l'était elle-même et qu'elle trouvait qu'il la prenait de haut, les visites à Oxnecombe étaient rares et très espacées. Mais à la période dont je parle, une telle visite était sur le point d'avoir lieu. Miss Le Smirger avait une jeune sœur qui avait hérité d'une propriété à peu près comparable à la sienne dans la paroisse. Mais cette jeune sœur avait aussi hérité de la beauté, et en conséquence, elle avait eu plusieurs soupirants pendant ses jeunes années, et l'un d'eux devint son mari. Elle avait épousé un homme qui avait déjà une bonne position dans le monde, mais qui était maintenant riche et presque puissant, un membre du Parlement, un lord impliqué dans telle ou telle commission, un homme qui avait une maison à Eaton Square et un parc dans le nord de l'Angleterre. Le chemin de cette sœur dans la vie avait en conséquence nettement divergé de celui de Miss Le Smirger. Mais le lord avait eu de nombreux enfants et peut-être commençait-il à s'intéresser aux acres de tante Pénélope dans le Devonshire. Tante Pénélope avait la possibilité de les léguer à qui elle le souhaiterait, et bien qu'on pensât évidemment à Eaton Square que les terres seraient léguées à la famille, on se rendait bien compte toutefois que quelques vagues cousinages pouvaient rendre les choses moins certaines. Je ne dirais pas que c'était la seule raison de cette visite, mais à ce moment-là, le capitaine Broughton était sur le point de venir voir sa tante. Le capitaine John Broughton était le second fils de Lord Alfonso Broughton de Clapham Park et Eaton Square, membre du Parlement et d'une commission au gouvernement. « Et qu'allez-vous faire de lui ?» demanda Patience Woolsworthy à Miss Le Smirger quand elle vint la voir depuis la combe pour annoncer que son neveu John allait arriver le matin suivant. « Faire de lui ?» « Eh bien, je l'amènerai ici pour discuter avec votre père. Il sera bien trop chic pour cela, et papa ne va pas s'embêter avec lui s'il découvre qu'il ne s'intéresse pas à Dartmoor. Alors, il pourra très bien tomber amoureux de vous, ma chérie. C'est vrai, il reste toujours cette ressource. Et ne vous inquiétez pas, je serai plus civile avec lui que papa. Mais il se lassera vite de flirter. » Alors, je n'imagine pas trop ce que vous pourrez faire de lui. Je n'irai pas jusqu'à dire que Miss Woolsworthy ne s'intéressait pas à la visite du capitaine. Dans la réclusion qui était la sienne, la venue d'un étranger avec qui elle pourrait être amenée à entrer en relation ne pouvait que l'intéresser. Et elle n'était pas à ce point différente des autres jeunes femmes pour considérer l'arrivée d'un jeune homme célibataire avec le même détachement que celle d'un quelconque parent. En se faisant son opinion sur la vie, comme je l'ai dit, elle ne s'était jamais dit qu'elle devait mépriser toutes ces choses qui excitaient tellement les autres jeunes filles, qui faisaient les joies et les déceptions de leur vie. Elle s'était seulement convaincue qu'elle trouverait sur son chemin très peu de ces choses, et qu'il lui appartenait de vivre heureuse autant que possible, sans en éprouver le besoin. Elle avait entendu dire, avant qu'il ne soit question de cette visite à Oxney-Colne, que John Broughton était un homme élégant, intelligent, un homme qui pensait le plus grand bien de lui-même et dont les autres pensaient encore plus de bien. Elle avait entendu dire également qu'il avait été question qu'il épouse une grande héritière, mais que ce mariage n'avait pas eu lieu parce qu'il ne l'avait pas souhaité, et qu'enfin il était un homme plus remarqué dans le monde que ne le sont les capitaines ordinaires des régiments ordinaires. Le capitaine Broughton vint à Oxney-Combe, y resta une quinzaine. Il avait initialement prévu de rester 3 ou 4 jours, puis il repartit. Il retourna dans son repaire de Londres, les vacances de Pâques approchant. Mais en partant, il dit à sa tante qu'il reviendrait sans faute la voir en automne. « Et bien sûr, je serai heureuse de vous voir, John, si vous venez pour une raison précise. Si vous n'avez pas une telle raison, vous feriez mieux de rester là-bas. »« Je viendrai sans faute, » avait répliqué le capitaine, puis il s'était mis en route pour son voyage. L'été passa rapidement, et très peu de choses furent dites entre Miss Le Smirger et Miss Woolsworthy à propos du capitaine Broughton. Deux femmes n'auraient pu être plus intimes qu'elles l'étaient, et sur beaucoup de sujets les plus personnels, elles avaient le courage de se parler l'une à l'autre avec une absolue franchise, un courage qui manque souvent même aux amis les plus proches. Mais malgré cela, très peu de mots furent échangés entre elles à propos du capitaine John Broughton. Tout ce qui fut dit peut être rapporté ici. « John dit qu'il devrait revenir en août, » dit Miss Le Smirger, tandis que Patience était assise à ses côtés dans le petit salon d'Oxney Combe le lendemain du départ du gentleman. « Il me l'a dit lui-même, » dit Patience, et tandis qu'elle faisait cette réponse, ses yeux noirs montrèrent une plus grande assurance qu'à l'accoutumée. Si Miss Le Smirger avait eu l'intention de pousser plus loin la conversation, elle changea d'avis en regardant sa compagne. Puis, comme je l'ai dit, l'été s'écoula, et à l'approche des chaleurs de juillet, Miss Le Smirger, assise sur le même fauteuil dans la même pièce, reprit la conversation. « J'ai reçu une lettre de John ce matin. Il écrit qu'il sera ici le 3. »« Vraiment ?»« Il a été très précis sur le jour. »« Oui, j'imagine que c'est un homme précis, » dit Patience. « J'espère que vous serez heureuse de le voir, » dit Miss Le Smirger. « Très heureuse, » dit Patience d'une voix claire et nette, et la conversation retomba une fois de plus, et rien de plus ne fut dit jusqu'à la seconde visite du capitaine Broughton dans la paroisse. 4 mois s'étaient alors écoulés depuis son départ, et pendant ce temps, Miss Woolsworthy avait accompli ses tâches journalières selon ses habitudes. Personne ne pouvait penser qu'elle avait été moins attentive dans ses affaires domestiques, ou moins désireuse de visiter ses voisins pauvres, ou moins assidue dans ses attentions envers son père. Mais cependant, ceux qui la côtoyaient avaient le sentiment qu'un grand changement s'était produit en elle. Elle passait les longues soirées d'été, assise toujours au même endroit derrière le verger du presbytère, en haut d'une petite pâture en pente où se trouvait toujours la vache, avec un livre posé sur les genoux, mais ne lisant pas souvent. Elle restait assise là, devant la belle vue qu'offrait la rivière qui serpentait en bas, regardant le soleil couchant, et elle pensait, pensait, pensait. Elle pensait à des choses dont elle n'avait jamais parlé. Souvent, Miss Le Smirger la rencontrait à cet endroit, et elle ne passait pas souvent devant elle sans lui adresser la parole, mais pas une fois, pas une seule fois, elle n'eut l'audace de lui demander l'objet de ses pensées. Mais elle en avait une idée assez précise. Aucune confession n'était nécessaire pour l'informer que Patience Woolsworthy était amoureuse de John Broughton, amoureuse éperdument et de tout son cœur. Un soir qu'elle était ainsi restée assise jusqu'à ce que le soleil de juillet disparaisse pour la nuit, son père vint à elle à son retour d'une de ses expéditions dans la lande. « Patty, dit-il, vous restez toujours assise ici en ce moment. N'est-il pas trop tard ? N'allez-vous pas attraper froid ?»« Non, papa, dit-elle. « Je n'aurai pas froid. »« Mais ne voulez-vous pas regagner la maison ? Vous me manquez quand vous rentrez si tard, que nous n'avons même pas le temps d'échanger un mot avant d'aller au lit. » Elle se leva et le suivit dans le presbytère, et une fois qu'ils étaient assis ensemble au salon et que la porte fut fermée, elle s'approcha de lui et l'embrassa. « Papa, dit-elle, seriez-vous très malheureux si je vous quittais ?»« Me quitter ? » dit-il, alarmé par le ton sérieux et presque solennel de sa voix. « Voulez-vous dire pour toujours ?»«
Pour me marier, papa. »«
Oh, pour vous marier ! Non, cela ne me rendrait pas malheureux. Cela me rendrait très heureux, Patty, de vous voir mariée à un homme que vous aimeriez. Très, très heureux, même si ma vie serait bien morne sans vous. »
« C'est cela, papa. Que feriez-vous si je vous quittais ?»«
Et qu'est-ce que cela peut bien faire, Patty ? Au moins, je serais délivré d'un poids qui m'oppresse souvent douloureusement. Que ferais-je si vous me quittiez ? Encore quelques années et tout sera terminé pour moi. »
« Mais de qui s'agit-il, ma chérie ? Quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose ?»«
C'est seulement une idée, papa. Je ne pense pas souvent à ce genre de choses, mais là, j'y pensais. » Et ainsi, le sujet fut clos. Cela se passait la veille de la seconde visite dont la date avait été fixée avec tant de précision et communiquée à Miss Woolsworthy. Et donc, cette seconde visite eut lieu. Le lecteur aura compris en lisant les mots par lesquels Miss Le Smirger autorisait son neveu à faire cette seconde visite à Oxney Combe que la passion de Miss Woolsworthy n'était pas du tout mal accueillie. Le capitaine Broughton s'était entendu dire qu'il ne devait pas revenir s'il n'avait pas une raison précise, et il persistait néanmoins à venir. Il avait sans nul doute compris l'allusion de sa tante. « Je viendrai sans faute », avait-il dit, et fidèle à sa parole, il était là. Patience savait à quelle heure exactement il devait arriver à la gare de Newton Abbot, et le temps que cela lui prendrait de parcourir les quelques 12 miles depuis la gare pour monter à Oxney. Il n'est nul besoin de dire qu'elle ne rendit pas visite à Miss Le Smirger cet après-midi-là, mais elle pouvait deviner l'arrivée du capitaine Broughton sans aller là-bas. En effet, la route pour la combe passait devant la porte du presbytère, et si Patience s'était tenue à la fenêtre de sa chambre, elle l'aurait certainement vue passer. Mais Patience n'était pas restée assise à la fenêtre de sa chambre. Elle n'aurait jamais rien fait qui l'eût obligée à reconnaître qu'elle se désespérait de l'arrivée de son amoureux. C'était à lui de venir la chercher. S'il voulait le faire, il connaissait le chemin du presbytère. Mais Miss Le Smirger, la bonne, l'honnête, la généreuse Miss Le Smirger, était, elle, dévorée d'anxiété pour son ami. Ce n'est pas vraiment qu'elle souhaitât que son neveu épouse Patience, ou même qu'elle ait encouragé de telles pensées lors de sa première visite. Elle n'avait pas l'âme d'une entremetteuse, et plus encore, elle pensait au fond d'elle-même que ceux d'Oxney Colne pouvaient très bien se débrouiller sans se mélanger à ceux d'Eaton Square. Elle avait planifié les choses ainsi. Quand le vieux Mr. Woolsworthy ne serait plus à Dartmoor, Patience viendrait vivre avec elle, et quand elle-même disparaîtrait, Patience Woolsworthy serait maîtresse d'Oxney Combe et de la ferme de Mr. Cloysey, au détriment de tous les Broughton. Tel était son plan, avant que son neveu John ne vienne parmi eux, un plan dont il n'y avait pas à parler jusqu'à ce sombre jour qui ferait de Patience une orpheline. Mais maintenant, son neveu était venu et tout était changé. Le plan de Miss Le Smirger lui aurait procuré un compagnon pour ses vieux jours, mais là n'était pas son principal objectif.
Elle avait plus pensé à Patience qu'à elle-même, et maintenant, de meilleures perspectives de bonheur semblaient s'ouvrir pour son amie.